Nous pourrons, nous devrons sans doute bientôt télécharger nos applis mobiles sur d'autres boutiques que l'App Store. Apple s'y préparerait malgré elle, et même si l'information de Bloomberg n'est pas confirmée, ce pourrait être une révolution, à la fois pour le modèle économique d'Apple, mais aussi pour nos usages. Dans un instant, on va essayer de se projeter pour deviner ce que cette ouverture au sideloading tant rejetée par Tim Cook pourrait changer. Au départ de ce changement imposé, il y a la nouvelle législation européenne et un certain retour de la régulation sur lequel Gilles Dounès va revenir dans sa mise au point. Cette semaine, Apple a écopé €1 million d'amende à Paris. C'est beaucoup moins que les $520 millions d'amende infligés à Epic Games par la FTC. L'info de la semaine, ce sont les choix qu'Apple fait désormais. Choix de sauter l'étape M2 pour l'iMac, choix de renoncer au nouveau Mac Pro le plus cher. Un Mac Pro Apple Silicon Extreme pressenti à $10 000 dans ses versions de base. On va en discuter. Le tuto audio, cette semaine, la toute nouvelle procédure de réinitialisation de votre Mac sous macOS 13. Ça devrait vous rappeler votre iPhone. Et puis le bonus exclusif hebdo pour notre communauté Patreon sur patreon.com/iWeek. Cette semaine, nos idées de cadeaux de Noël de dernière minute. On sait jamais, ça peut servir. On n'est pas champion du monde, mais on a tous, ou presque, crié dans notre salon dimanche. Alors en ce mardi 20 décembre 2022, 17h30, allez 18h même, à l'heure où nous commençons à enregistrer cet épisode 117, je suis très heureux de vous retrouver dans le calme, la joie d'avoir vibré avec les Bleus et la bonne humeur. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, ici Benjamin Vincent. C'est le dernier numéro d'iWeek, la semaine Apple avant Noël. LSA, c'est le podcast indépendant de référence sur l'actu de l'écosystème Apple. Et oui, je suis très heureux de vous retrouver avant nos deux numéros autour de la Saint-Sylvestre. Le 28 décembre, grande rétrospective 2022, retour sur toutes les keynotes, toutes les nouveautés, tous les événements de l'année qui s'achève. Et puis le 4 janvier, autre rendez-vous, on se projettera sur l'ensemble de l'année 2023 avec toutes les annonces possibles et notre calendrier prévisionnel. En attendant, on va donc rester sur du très concret. Aujourd'hui, on va parler gros sous, régulation, usage, simplicité ou pas, sécurité, enjeu de puissance. Et on va le faire avec la team presque au complet. Salut Ellie Habitbol.
Bonsoir Benjamin, bonsoir la team, bonsoir tout le monde. Je suis ravi d'être de retour parmi vous.
Et bah pareil, j'ai failli écorcher ton prénom pour ton retour, dis donc. Tu vois, plus l'habitude. Oh.
C'est ça, loin des yeux, c'est ça.
Presque. Bon, tu es toujours le président des Apple Premium Resellers en France.
Il paraît.
C'est
pour, c'est ça. On ne sait plus.
Et tu es toujours le cofondateur des magasins MCS à Nice, Cannes et Aix-en-Provence. Toujours un plaisir de t'avoir dans iWeek, Ellie. Salut Gilles Dounès.
Et salut Benjamin Vincent. Jouer au bois, réseau des musettes, voici Ellie Habitbol qui est de retour parmi nous.
Et oui, et toi aussi tu es là, et toi tu n'as pas crié alors dimanche dans ton salon.
Non, j'étais voir Avatar et on en parlera peut-être à la fin de l'émission et je vous dirai quel est le nom de l'assassin.
Ah non, surtout pas. Non, on t'interdit de spoiler. Si tu veux reparler, on t'interdit de spoiler. Regarde, ça va très mal se passer entre nous. ça n'empêche pas que tu es quand même l'excellent auteur d'un livre de référence sur l'iPod, iPod Backstage, et tu as été le rédacteur en chef de MacPlus.net. On t'aime quand même aussi pour ça. Salut Fabrice Neumann.
Salut à tous. Alors comme chacun sait, celui qui a tué, c'est le majordome naturellement. Parce que c'est toujours le majordome.
C'est ça.
Avec le couteau, n'oublie pas.
Avec le couteau à beurre. Et alors moi, je voudrais rajouter ma voix à celle de Gilles. C'est que je n'ai pas regardé une seule image du comment ça s'appelle, de la coupe de machin, là. Déjà, le foot, ça m'intéresse pas beaucoup. Ça, c'est des goûts et des couleurs. Mais en plus, au Qatar, là, moi, ça, c'est pas possible, quoi. Donc,
on l'a trouvé. Le seul à vraiment boycotter le mondial.
Ouais, exactement.
Alors, moi aussi, j'ai boycotté.
Écoutez, nos chers auditeurs, dites-moi, je vais mettre mes auditeurs qui sont avec moi. Dites-le nous sur Twitter ou ailleurs si vous avez aussi boycotté la Coupe du Monde. Bonsoir
en
à tous.
En tout cas, l'important, c'est que tu sois avec nous, Fabrice. Toi, mentor en technologie, on te retrouve sur Twitter, comme nous tous d'ailleurs, @FabriceNoman, et puis aussi sur ton site.
Et oui, pro-fusion-conseil.fr. Et sur Mastodon aussi, à Fabrice Noman.
Ah oui, tu peux le dire ici au moins. Sans risquer d'être coupé. Bon. iWeek, la semaine Apple, abonnez-vous, oui, quick, fait Ellie, quick, exactement. iWeek, la semaine Apple, abonnez-vous, suivez le podcast sur toutes les principales plateformes, dont Apple Podcast et Spotify. Merci au passage pour vos notes 5 étoiles et pour vos avis, on les guette et on les lit avec impatience et avec régal. Pour voir nos têtes de beaux gosses en vidéo, deux possibilités s'offrent à vous. Patreon.com/iWeek pour y avoir accès en avant-première avec 2 à 3 jours d'avance. C'est pas rien, hein. C'est l'un des privilèges.
Il faut vraiment
avoir
des impatiences.
Oui, c'est ça. Oui, mais tu sais, ce qu'on dit est tellement intéressant que parfois, ça les vaut. Hein. C'est l'un des privilèges donc, de notre communauté Patreon. Sinon, à partir du dimanche, et avec de la pub, vous avez toujours la solution YouTube. Une communauté Patreon qui bénéficie de notre bonus hebdo exclusif au choix en audio et ou en vidéo. Et cette semaine, on va donc vous parler et vous livrer nos idées de cadeaux de Noël de dernière minute, puisque vous le savez, vous avez jusqu'à samedi pour vous en occuper. Allez, dans un instant, l'info de la semaine, Apple qui s'apprête à accepter le sideloading sur iPhone. Mais avant ça, l'événement de la semaine, les choix d'Apple, notamment du côté des Mac. Pas de Mac Pro de gamme, pas d'iMac M2. On en parle dans un instant. Pas de Mac Pro haut de gamme, pas d'iMac M2. Si on en croit Mark Gurman, Apple à l'heure de la raison qui fait des choix dictés essentiellement par des motifs économiques. C'est l'événement de la semaine et on va en parler même si ce ne sont évidemment que des rumeurs. Mais notre ami de Bloomberg est en général très bien informé sur ces sujets-là. On va commencer par parler de l'iMac qui passerait donc directement au M3. En vous rappelant évidemment qu'on détaillera le calendrier de l'année dans 15 jours. Est-ce que vous êtes surpris d'apprendre que le prochain iMac passera directement à la case M3 ? Ellie ?
Ben écoute, si c'est confirmé, oui, ça serait une grosse surprise.
Pourquoi ?
Et ça serait un bouleversement. Ben parce que généralement, les processeurs démarrent toujours par les MacBook Air, puis le MacBook Pro 13 tant qu'il existe, et puis après, ça se décline avec les versions Pro et Max. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un produit de la gamme qui démarre sur un nouveau processeur qui ne soit pas le MacBook Air, pour des raisons de volume, de vente, etc. Donc, ça veut peut-être dire que le M3 est un produit plus haut de gamme et qu'il le destine à une machine plutôt de bureau. Pourquoi pas ? La question, c'est même pas de savoir ça, c'est est-ce que le M3 va être, comme on l'espère, un processeur de rupture, ou est-ce que ça va être un gain marginal sur le M2 qui lui-même avait un gain marginal de performance sur le M1. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un processeur d'évolution ou de révolution ?
Bon, en même temps, tu dis d'habitude, mais bon, le M1, c'était quand même le premier du genre, donc l'habitude, elle est quand même très récente. Hein.
Bah oui.
Oui, mais Ellie s'installe dans l'habitude tout de suite, voilà, il est bien là, il ne change plus.
Fabrice, on revient vers toi, mais on fait un petit tour du côté de Gilles.
Oui, le fait qu'on commence doucement par les processeurs, les versions les plus légères des processeurs était une rupture en soi, dans la mesure où, auparavant, du temps des grandes heures de SJ, pour ne pas le nommer, on commençait toujours, et c'est une habitude en matière de numérique, on commençait toujours par le processeur le plus, ou la version la plus haut de gamme de ce qu'on a proposé, et ensuite on décline en enlevant des fonctionnalités et on fait rêver. C'est le modèle de la Formule 1. On va chercher les performances les plus invraisemblables, on fait rêver les fans, et puis ensuite on décline de plus en plus. C'est ce que fait l'industrie de la photo également. Et encore une fois, c'est ce que faisait Apple auparavant avec le G3, le G4, le G5. Non, je dis peut-être une bêtise. On avait fait l'iMac en septembre 2004. Il faut vérifier à quelle date le... Non, le Mac Pro avait été... le Power Mac G5 avait été présenté en juin, il me semble, en même temps que le... C'est très ancien,
mes neurones ne remontent pas jusque là-bas.
La tendance habituelle dans tout ce qui est technologique, c'est de faire rêver avec ce qu'il y a de plus performant, de plus efficace. On décline ensuite au fur et à mesure en mettant à disposition et en démocratisant.
Je comprends ce que tu dis, Gilles, mais le M3, a priori, ce sera le processeur le plus moderne et le plus puissant à ce jour. Donc, il n'y a pas d'opposition à ce que tu es en train d'expliquer.
C'est par rapport à ce que disait Eli.
Ouais, mais Gilles, l'iMac en même temps n'est pas un produit haut de gamme. Sinon, le M3 serait sorti directement sur l'équivalent d'un studio ou d'un pro. Donc, c'est un milieu de gamme. Donc, en fait, c'est ni l'un ni l'autre.
Fabrice, ta réaction en lisant les infos de Mark Gurman sur ce potentiel iMac M3 direct?
Alors, plusieurs remarques. Déjà, je pense qu'il faut pas confondre processeur puissant et processeur moderne. Je sais plus le terme que tu as employé, parce que le M3 est pas forcément le plus puissant et ne sera pas le plus puissant, puisque on sait justement déjà que le M2 n'est déjà pas aujourd'hui le processeur le plus puissant. Ça reste le M1 Pro, le M1 Max, le M1 Ultra, en fonction de ces configurations. C'est toute
oui,
la difficulté.
Le M2 est plus puissant que le M1.
Oui,
mais ce n'est pas le plus puissant de la gamme, c'est ça que je veux dire. Donc du coup, c'est pour ça que ça rentre dans le côté iMac, qui n'est pas, quand il n'est pas iMac Pro, on en reparlera aussi peut-être tout à l'heure, l'iMac, c'est pas, comme vient de le dire très justement Ellie, la machine haut de gamme la plus puissante, elle n'est pas faite pour ça. Ensuite,
comparaison égale, c'est ce que je veux dire, le M3 est plus puissant que le M2, enfin, on suppose qu'il lui-même est plus puissant que le M1.
C'est exact.
Sans parler Pro Max, etc. Voilà.
Oui, mais la lecture de la gamme des Mac est pas tellement facile. On en a parlé dès le début quand on a commencé à entendre parler de l'arrivée du M2, même avant qu'elle arrive. On savait que le M2, même s'il y a le 2 derrière, c'est pas forcément celui qui est le plus puissant. C'est pour ça que la gamme est pas tellement facile à lire aujourd'hui avec l'arrivée des puces Apple Silicon. Après, en termes de surprise, moi je suis surpris qu'Apple effectivement n'ait pas fait d'iMac M2. En revanche, pas surpris de l'annonce de Gurman qui l'a dit déjà il y a 6 mois. C'est-à-dire que là pour le coup, il est une constance parfaite. Il a déjà évoqué cette possibilité qu'il n'y ait pas d'iMac M2. Moi j'avais déjà été surpris à l'époque, mais bon, parce qu'on s'attend évidemment pas à un redesign, puisque l'iMac est sorti là, l'iMac M1 il est tout nouveau, donc il n'y aura pas de nouveau design, qui n'est pas juste un recalage de gamme avec un M2, c'était un peu surprenant. Bon, peut-être qu'ils ont du mal à le fabriquer, j'en sais rien. Et puis on parle aussi du fait que le M3 serait peut-être le premier à avoir un processus de fabrication différent, parce que le M2 est pas vraiment différent, hein. Fred Crassa nous l'a rappelé, hein. Ils appellent ça 4 nanomètres, mais en fait c'est du 5 un peu amélioré. Est-ce que ce serait la première puce à 3 nanomètres qui apporterait finalement je ne sais pas quoi. Enfin si, on sait, ça chauffe moins, etc. Mais dans l'iMac, c'est pas tellement important. Donc, c'est la progression de la gamme ou des gammes chez Apple est un peu surprenante en ce moment. Et notamment aussi, par exemple, le fait que, on va aussi en reparler, l'iMac n'existe plus qu'en une seule taille. Et ça manque.
Alors, peut-être que cette information, si elle se confirme, veut dire plusieurs choses. Sur le timing, ça veut sans doute dire que c'est pas pour tout de suite, et donc que ce serait peut-être aberrant d'attendre encore 6 mois pour sortir un iMac M2 qui, dans 6 mois, sera peut-être déjà un peu has-been, en tout cas dans l'esprit des consommateurs. D'où peut-être l'intérêt que ce soit la première machine à passer au M3.
Ils ont trop attendu avant de sortir l'iMac M2, parce que pourquoi ils n'auraient pas pu mettre une puce M2 sur un iMac? Bon, c'est une carte mère qui ressemble grosso modo à celle d'un MacBook Air avec 2-3 petits trucs, mais grosso modo, la carte est toute petite. Il n'y a rien qui les empêche de mettre un M2 sur un iMac s'ils avaient voulu, mais je pense qu'ils ont... Oui, où ils ont gardé en fait un décalage dans le temps pour ne pas faire toutes les annonces en même temps, et puis c'est tombé au mauvais moment, et puis ça a reculé, et puis après, ça n'a pas de sens de sortir par exemple en février un iMac M2 en même temps qu'on sort un M2 Max et un M2 Pro sur des MacBook Pro. Donc il y a un mélange. Donc du coup, ils se disent, bon, tant qu'à faire, on va mettre un M3. Voilà, hop.
Tu veux dire que dans le calendrier et la chronologie, on s'oriente de plus en plus vers une annonce presque en 3 temps, avec d'abord les premières machines qui ont le processeur entre guillemets de base, donc là le M2. Dans un deuxième temps, typiquement au printemps, on aurait des machines avec du M2 Pro et M2 Max. Et puis le coup d'après, ce sera pour changer de processeur.
Alors oui et non, parce qu'en fait, ça s'est déjà produit. C'est-à-dire que les M2, on les a déjà. Donc, dans le cas du M1, c'était ça. C'était d'abord les MacBook Air, puis quelques mois après, au printemps, effectivement, les Pro et les Max. Mais là, on a déjà les deux. Il nous manque les M2 Pro et M2 Max, qui, eux, normalement, sont prévus pour le début de l'année. Début d'année, c'est vraiment janvier, février. Allez, peut-être mars, si vraiment on est en retard. Mais en tout cas, avant Pâques. Ce qui veut dire que l'iMac serait soit pour le mois de mai, si tout va bien, soit pour l'automne. Mais ça, on ne sait pas. L'automne, on va être dans d'autres annonces, comme les iPhone 15, qui vont être une révolution. On sera peut-être dans le casque et on sera peut-être dans la pré-présentation des lunettes. On ne sait pas. Donc là, il y a de quoi occuper Apple pendant quelques temps avec tout ça.
Il y a un truc avec la fabrication et la conception du M2 qui a eu l'air d'être un peu plus problématique, compte tenu, tout le monde l'a souligné, Fred Crassat en particulier, la performance du M1 telle qu'elle est aujourd'hui, elle est telle que Apple n'a pas à rougir de la concurrence et on peut tout à fait sauter une case, sachant que ils ont pas mal de fer au feu. Le casque, on en a parlé, et éventuellement les lunettes ensuite. Le Mac Pro et sa capacité de calcul qui doit être en rupture et significative, on va en parler un peu plus tard ensuite. Donc, plus les machines, les processeurs des machines portables, nomades, il y a le Mac Mini. Il y a également les écouteurs, les Apple Watch, l'Apple TV, tout un tas de plus en plus d'appareils. Ça fait beaucoup de processeurs à développer avec des spécificités, certes sur la même base, mais les équipes d'ingénieurs ne sont pas extensibles, d'autant qu'il y a des départs, on l'a vu.
Alors, est-ce que ce passage direct au M3 pourrait relancer l'hypothèse d'un nouvel iMac Pro, Fabrice?
Tu veux dire un iMac Studio, bien sûr.
Voilà, ton appellation préférée.
Oui, moi, c'est ce que j'entends toujours.
Mais il serait en M3 Pro.
Qu'il y a
il sera forcément en M3 Pro. Si c'est un Pro, il aura un processeur Pro. Si c'est un iMac 27, admettons, non pro, il pourrait avoir un M3.
Oui, mais ce serait sur
la taille d'écran n'est pas la dénomination. Soit c'est un iMac en 2 tailles d'écran, soit c'est un iMac et un iMac Pro, dans lequel cas les processeurs ne peuvent pas être les mêmes. Parce que la gamme Studio, même si c'est un studio, la gamme Studio utilise des processeurs pro.
Oui, oui, non. Pour moi, ce serait le mot studio, c'est le mot qui remplace pro. Hein, dans ces cas-là, oui. À ce moment-là, je comprends ce que dit Ellie. Il y aurait eu un processeur de la gamme pro ou Max dedans. Il a raison, c'est vrai. Est-ce que ce serait M3 finalement? J'en sais rien. Non, c'est assez bizarre tout ça en fait.
Il y aura peut-être un processeur et M3 studio.
Non. Ah non, alors ça Max. M'étonnerait qu'il y ait un processeur Max. Qui porte le nom de studio en fait. Ça, je crois pas. Moi, je m'attends à une extension des gammes de machines, studio avec iMac Studio. Il y a donc déjà le Mac Studio. Moi, j'attends aussi l'iPad Studio un jour. On en reparlera ça la semaine prochaine ou dans deux semaines. Sur cette appellation, je pense qu'ils en sont très contents. Ça marche très bien. Tellement bien, même que, à mon avis, c'est ce qui mange l'arrivée du Mac Pro. C'est-à-dire que. L'arrivée du Mac Studio avec toute la puissance qu'il a dedans, il manque un peu l'extension, peut-être de certaines puissances graphiques, mais le marché potentiel d'un Mac Pro se réduit à presque rien maintenant. On se demande même si c'est pas pour ça que le Mac Pro est toujours pas sorti, parce que y aurait un marché tellement réduit. Et que pour Apple, ça n'est même plus utile ou même viable à faire.
C'est l'hypothèse de Mark Gurman.
Le
rétrécissement de la niche possible pour le Mac Pro, qui serait tel qu'on descendrait un silicone M1 ou M2 avec des possibilités d'extension supérieures à ce qui est le cas maintenant. Et on passerait la case du pluriprocesseur parce qu'il coûterait trop cher à concevoir et ensuite à fabriquer. Et du coup, un Mac Pro à plus de 10 000 euros serait pas viable économiquement.
Alors peut-être qu'on peut passer au Mac Pro justement, puisque on a commencé par l'iMac. La deuxième hypothèse de Mark Gurman, c'est qu'Apple aurait renoncé au modèle haut de gamme, alors hors option, c'est-à-dire le modèle haut de gamme du prochain Mac Pro démarrerait ou aurait démarré autour de 10 000 $ et plus si affinité. Donc Apple a considéré que ce prix-là était un prix couperet, qui ne colle plus à la réalité de ce que les uns et les autres sont prêts à mettre.
Je crois qu'ils ont fait leur petit compte avec leur Excel pour savoir combien de Mac Pro de génération Intel se sont vendus en config de base ou en config, parce que vous savez qu'on pouvait monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros suivant les configs. Hein. Combien ils en ont vendu, et puis ils ont dû se dire, est-ce qu'économiquement c'est valable ?
Bon, Ellie, tu as voulu dire numbers, bien sûr, pas Excel, t'exagères quand même.
C'est-à-dire que il y a les gens qui utilisent ça comme un jouet, et puis il y a les professionnels, même chez Apple, qui utilisent Excel parce que tu veuilles ou pas, il y a un langage derrière, il y a des macros, il y a des choses. On peut s'amuser beaucoup avec numbers, je ne le critique pas, en plus il est gratuit. Mais de l'autre côté, moi, je ne connais pas beaucoup de professionnels qui utilisent Numbers par rapport à Excel. Hein.
En tout cas, un Mac Pro avec un prix de base à 10 000 $, ce serait difficilement envisageable. Le Mac Pro qui est toujours au catalogue, donc avec les Xeon d'Intel, son prix de base en France, c'était 5 000 euros ou 5 500, quelque chose comme ça. Et on s'en est déjà beaucoup gossé parce que pour ce prix-là, on avait 256 gigas de disques. Pas beaucoup de mémoire, donc c'était quand même assez déshabillé pour 5 000 € de base. Donc si ça commence à 10 000, c'est pas raisonnable, même avec le processeur le plus fort du monde, ce qui serait même pas le cas. Ça va pas, quoi. Donc visiblement, on peut penser aussi qu'ils ont des hésitations de dernière minute, parce qu'on rappelle quand même que pendant une des keynotes, le Mac Pro a été, à la WWDC, le Mac Pro a été, non pas annoncé, mais au moins évoqué, en disant, tiens, bon voilà, ça y est, on a renouvelé toute la gamme, il n'en reste plus qu'un, c'est le Mac Pro, donc le mot a été prononcé, et depuis, plus rien, quoi.
Ouais. Et on va rappeler qu'Apple avait fixé un délai de 2 ans pour la transition, et que on est maintenant nettement au-delà, et que ce Mac Pro n'est toujours pas sorti.
Ellie, n'oubliez pas que Mark Gurman, Mark Gurman dit aussi que le Mac Pro, puisqu'il en parle, serait délocalisé, parce que si en plus la machine est très chère et qu'elle est fabriquée aux États-Unis, alors avec les coûts de main-d'œuvre américains, alors là, elle est carrément inachetable. Et donc, Mark dit, la production de ce Mac Pro, lorsqu'il sortira, sera délocalisée probablement en Inde, où la main-d'œuvre est moins chère.
Alors que le modèle actuel est assemblé aux États-Unis.
Oui.
C'est vraiment la fin du process hein, qui est faite aux États-Unis, mais voilà, symboliquement...
Assemblée.
Assemblée au Texas, aux États-Unis.
Oui, pour le moment. On ne sait jamais si, par exemple, un changement de gouvernement redonnait des taxes à l'importation sur les produits, peut-être qu'Apple reconsidérerait cette position. Il l'avait fait principalement pour ça. Et pour faire plaisir à l'administration de l'époque. Il fallait un geste symbolique qui a d'ailleurs très bien marché, hein, puisque Tim Cook, vous vous en rappelez, avait fait cette fausse inauguration, entre guillemets, devant toutes les caméras, avec le Mac Pro.
On reviendra dans 15 jours, hein, c'est promis, sur la perspective de la sortie de ce Mac Pro, du prochain iMac et de tous les autres produits Apple à l'occasion de notre émission spéciale 2023. On sortira la boule de cristal. Hein. Ellie, tu es un expert en Madame Irma. Ouais. Et oui. Donc, on en reparlera très certainement dans 15 jours, c'est promis. Allez, on marque une pause et on revient sur l'autre énorme info de Mark Gurman il y a quelques jours. Apple qui aurait accepté l'idée d'autoriser le sideloading sur l'iPhone. À tout de suite. C'était il y a une semaine, Mark Gurman, notre confrère de Bloomberg, lâchait cette autre énorme info. Apple serait en train de préparer l'arrivée d'App Store tiers, permettant ainsi, malgré elle, le fameux sideloading qu'elle cherche absolument à éviter. Si on parle de révolution, est-ce que ce n'est pas exagéré, Fabrice ?
Ah si, alors déjà pour rappeler ce que c'est que le sideloading, parce qu'on dit le mot en anglais, sideloading, hein, ça fait peur, sauf que c'est ce qu'on fait tous les jours sur nos Mac, hein, on va juste télécharger un fichier pour l'installer, donc c'est pas c'est pas de la magie noire non plus. En revanche, c'est une révolution, bah oui, parce que donc depuis ses débuts, enfin depuis l'arrivée de l'App Store, puisque le premier iPhone n'avait même pas d'App Store, rappelons-le. À l'ouverture de l'App Store, une année après le lancement de l'iPhone, c'est depuis ce temps-là le passage obligé pour installer une application sur un iPhone en mode normal. Hein, on ne parle pas de mode jailbreaké ou même de l'utilisation de Test Flight pour installer des bêtas, par exemple. Voilà, quand on est un utilisateur normal, les vrais gens, comme je dis, vont sur l'App Store et puis on installe les applications depuis cet endroit. Et là, la législation prévue pourrait obliger donc effectivement Apple non seulement à ouvrir l'App Store, éventuellement, donc on ne sait pas en gros ce qui pourrait se passer, et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer d'imaginer, mais en tout cas de rendre l'App Store, de changer son statut pour que ce soit une des façons de récupérer des applications et pas l'unique façon d'installer des applications sur son iPhone. Donc ça changerait tout, effectivement. J'aurais envie de dire en bien et en mal, on en discutera. Y a du pour, du contre et du bien au contraire, comme disait l'autre. Et on voit aussi que Apple y va en rechignant et en se débattant le plus possible.
Ellie, ton sentiment sur cette perspective ?
Ben, moi, ça me rassure pas vraiment. Je pense qu'Apple le fait parce qu'ils sont obligés de le faire. Est-ce qu'ils vont mettre des barrières en disant « Ok, vous pouvez télécharger à partir d'une autre source, mais cette source va être identifiée, donc on saura que ce n'est pas l'App Store. Est-ce qu'Apple va pas mettre un renforcement en disant « Ok, vous avez téléchargé l'appli, maintenant il y a des zones de l'OS un peu sensibles ou des fonctionnalités auxquelles elle n'aura pas accès. » Et du coup, ça entraînera peut-être des nouveaux procès en disant « Ouais, attendez, mais moi je peux pas faire comme... » mon camarade App Store qui lui fait des choses que moi je peux pas faire, et puis ça reportera d'autant, et puis ça repartira. Je suis pas sûr qu'ils vont donner carrément le statut citoyen privilégié un App Store alternatif. Et puis, ce qu'a dit Fabrice est totalement vrai par rapport aux applications qu'on installe à droite et à gauche, même s'il y en a de moins en moins. Mais il y a une vérification quand même. Hein. Quand vous ouvrez l'appli, le système la vérifie. Des fois, elle vous dit « Développeur non identifié, mettez l'application à la corbeille. » Il ne vous laisse pas l'installer. Hein. Je sais pas. En tout cas, sur l'iPhone, c'est plus compliqué parce que l'iPhone, c'est le produit qui a toute votre vie numérique, que vous avez tout le temps avec vous et qui communique. Le Mac peut ne pas communiquer à certains moments si on ne veut pas. L'iPhone, il communique tout le temps. Il est, que ce soit en 4G, que ce soit en 5G, que ce soit en, quel que soit le système, en satellite bientôt,
déjà.
Il vaut mieux que, oui, il vaut mieux que on puisse pas trop le pirater. Parce que le problème qu'il y a dans le Play Store de Google, même si le Play Store est aujourd'hui dans une, aussi dans une position dominante, hein. Le sideloading existe sur les appareils Android, mais il faut passer par une installation d'APK. C'est pas facile. Hein. Et d'ailleurs, c'est étonnant que Google, qui est censé être plus gros qu'Apple en termes de nombre de téléphones installés, ne s'attire pas autant. Ou simultanément les foudres de la communauté européenne et de son commissaire cravacheur quoi. Donc moi je suis
ils sont
un tout petit peu
aussi, mais
pas avec autant de d'intensité, en tout cas c'est moins médiatisé,
c'est moins médiatisé peut-être sans doute. Que ça... Gilles, ton sentiment sur cette perspective de l'ouverture contrainte d'Apple à d'autres magasins d'applications?
Oui, j'avais beaucoup râlé au départ sur l'utilisation non. d'Apple. Si, j'avais râlé après Apple et c'est pas si fréquent. L'utilisation des données personnelles, l'intrusion de la pub, etc. Et j'avais fini par mettre l'hypothèse dans une quotidienne que peut-être ils se préparaient à l'arrivée de ces boutiques parallèles. Effectivement, il semblerait que ça soit le cas. C'est une grande école de modestie Apple dans les prévisions. On râle, on dit il y a qu'à Faucon, il faudrait. Et en fait, bien avant, ils ont pris en compte tout ce qui est opportunités et risques, et ils ont pris leur disposition, même si c'est beaucoup plus long. Il faut rappeler, pour revenir à ta question, le fondement de l'iPhone, c'est la sécurité. Au départ, sur le premier iPhone, il n'y avait pas de boutique, il n'y avait pas d'App Store, pour la bonne raison qu'il n'y avait pas d'application non plus. C'était des web apps. Et il a été vendu sur la sécurité et la sécurité par rapport au Windows Phone. Et au BlackBerry où les mails étaient hébergés sur des serveurs au Canada. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Et s'il y a un risque de ce côté-là, Apple va faire tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de trouver la parade. Et on va en parler tout à l'heure. Il y a également la notion des données personnelles. Apple a toutes les peines du monde à empêcher certaines applications qui sont sur son App Store de balancer en permanence et de pister les comportements et de balancer de la pub qualifiée intempestive. C'est un risque qu'ils ne vont pas courir sans essayer de prendre des mesures, se battre jusqu'au dernier moment, quoi.
Fabrice, il faut être très clair, si Apple confirme cette ouverture, c'est vraiment qu'ils n'auront pas d'autre choix. C'est pas de leur propre initiative. Ils n'ont pas changé d'avis.
Mais non, parce que si on peut être d'accord sur le fait que l'iPhone a été fondé sur la sécurité, la protection des données, etc., c'est pas mon avis au sujet de l'App Store. Pour moi, l'App Store a été fondé sur l'envie des gros sous. Et Apple protège beaucoup la récolte des gros sous sur l'App Store. On a appris des choses, par exemple, pendant la période de Discovery, là, des découvertes des documents pendant le procès avec Epic Games. C'est que il y avait des échanges de mails entre différents présidents d'Apple, là, disant... Et notamment, Phil Schiller avait dit, dis donc les gars, peut-être que quand on arrivera à 1 milliard de profits sur l'App Store, on pourrait peut-être réduire, par exemple, un peu les 30% de commissions qui sont pris. Et les autres, ils ont répondu, t'es pas fou, non, on gagnerait moins d'argent. Donc, il y a vraiment une histoire de gros sous autour de l'App Store que Apple ne veut pas lâcher. Il y a plein de choses quand même, hein, justement, pour essayer de serrer un peu les trucs. Il y a déjà des législations dans d'autres pays, en Corée et en Hollande, qui ont forcé pour certaines catégories d'applications, par exemple les applications de rencontre, Apple à ouvrir un peu, notamment au niveau de des moyens de paiement en ligne. Une des choses qu'on reproche à Apple dans sa position dominante sur l'App Store, c'est que non seulement ils prennent 30% quand on achète une application, mais tous les achats électroniques qui sont faits au sein d'une application, Apple prend aussi ses 30%. Un abonnement annuel ou mensuel, au bout d'un an, ça baisse à 15%, mais ils prennent toujours leur truc. Et donc, en Corée notamment, je sais plus si c'est en Corée ou en Hollande, mais donc ils ont été obligés d'ouvrir les modes de paiement. Alors, ils l'ont fait. C'est peut-être bien les deux.
Je crois.
Mais ils ont dit, bon, alors, très bien, alors vous avez le droit d'utiliser un autre mode de paiement. Vous développeurs pour proposer à vos utilisateurs, mais donc vous allez être obligé aussi d'ouvrir vos livres de compte et on prendra 28% de ce que vous gagnez, de ce que vous vendez hors de notre système de paiement. C'est obligatoire. Donc c'est parce que la loi hollandaise et coréenne n'a donc pas prévu ça. Ils ont dit ça permettra aux gens de passer par un autre mode de paiement, mais Apple a dit très bien, enfin ils payeront quand même. Voilà. Donc
c'est moins que 30.
Voilà, ils y vont vraiment à reculons. Et puis on rappelle aussi que c'est aussi pour ça que Amazon ne permet pas dans l'application Kindle aux utilisateurs sur iPhone d'acheter des livres directement dans l'application pour ne pas payer 30% sur le prix du livre à Apple. Et c'est pas uniquement en plus pour Amazon, on va pas pleurer non plus, hein, sur leur capacité financière, mais les livres, la valeur des livres a beaucoup baissé, et donc s'il faut en plus payer 30% à Apple, Amazon gagnerait pas d'argent, et ou très peu, et les auteurs encore moins. Donc ça permet de cycler aussi sur le fait que s'il y avait un autre ou plusieurs autres magasins d'applications possibles, un des premiers, à mon avis, à s'engouffrer dans cette brèche-là, ce serait justement Amazon, qui proposerait son application ou son magasin d'applications en disant aux gens, si vous installez notre application depuis chez nous directement ou depuis notre magasin d'applications, alors sur votre iPhone, vous aurez enfin la possibilité d'acheter des livres directement plutôt que de passer par le navigateur Internet. C'est ça qui se joue quand même. C'est que Apple a tellement fermé les trucs. Et on sent peut-être au ton de ma voix, c'est-à-dire que je trouve que Apple s'est mis dans un piège. J'avais dit ça dans la quotidienne, et je suis toujours en colère contre Apple, en fait. Il se serait un petit peu assoupli, on n'en serait pas là, quoi. Et ça, je trouve ça fou.
Je te repasse la main, Fabrice, dans quelques instants, mais je voudrais la passer à Gilles, qui disait, avec son humour habituel, que 28%, c'est pas pareil que 30.
C'est de la provocation. C'est stupide.
Oui, je sais. Ah, c'est tout en plus.
Non, ah bah
ils
ont baissé.
Rien à dire, en fait.
Ils ont été obligés de baisser. Alors, pour Amazon, si la valeur du livre a tellement baissé, je crois pouvoir dire qu'Amazon y est pour beaucoup. Et ensuite, ils ont tellement déconné à vendre à perte sur un certain nombre de secteurs qu'ils sont obligés de dégager tout ce qui est justement commerce en ligne. Le cœur de là où ils gagnent de l'argent, ça reste l'hébergement web et les services autour du web.
Cela dit, le prix du livre en France, même électronique via Amazon, est contrôlé. Donc,
oui,
c'est la loi de la baisse de la valeur du prix du livre, c'était ailleurs qu'en France. Donc c'est à considérer aussi. Hein. Le monde de l'édition a, que je connais un peu a l'habitude de payer très peu les auteurs. Et c'est l'éditeur qui en prend la plus grosse partie. Je dis pas que c'est pas justifié d'ailleurs. C'est le fait est que c'est comme ça. Les 30% que demande Apple sont pas tellement élevés d'ailleurs. Hein, c'est pas tellement ça le problème. C'est que ils ne veulent pas de concurrence sur leur système de paiement. 30% c'est pas si élevé que ça. Et ce dont tu vas reparler d'ailleurs Gilles tout à l'heure dans pour l'amende du tribunal de commerce de Paris l'a bien dit.
Juste, est-ce qu'on peut poser la question comme ça ? L'Europe a réussi là où Epic Games a échoué ?
C'est pas pour les mêmes raisons. Et l'Europe n'a pas encore dit son n'a pas encore parlé en fait.
On sait que les législations européennes ont été votées et arrivent dans les prochains mois. Donc Apple se prépare aussi à l'arrivée du DSA et de la DMA.
Il doit passer à l'équivalent du Sénat, qui est le Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Donc il y a toujours une carte à jouer. On ne sait jamais. Il ne pourra pas compter sur.
Ça a été voté. Je vois pas comment les textes peuvent être.
Il n'y aura
pas de retour en arrière là.
Il est passé au Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Il me semblait que c'était pour le Parlement, mais.
Non, j'ai pas dit que c'était passé, mais il n'y aura pas de retour en arrière. Ça a été voté au niveau européen. Après, c'est, on va dire, c'est des formalités de répercussion, mais enfin, on va pas compter là-dessus.
Ça entre en vigueur en mai 2023 et c'est tout.
Hein. On va pas compter là-dessus pour se dire que ça peut peut-être changer. C'est parti pour ça, et c'est aussi pour ça qu'Apple voit le mur arriver.
Les clients d'Apple, les utilisateurs de l'App Store. Vont y laisser des plumes au niveau protection des données personnelles et il y aura forcément des abus.
Alors, je pose la question de manière très concrète. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, Ellie ? Concrètement, à quoi va ressembler l'utilisation d'un iPhone dans quelques mois si cette information se confirme ?
Bah, on aura plusieurs boutiques, plusieurs stores, certainement d'acteurs importants, parce que tout le monde ne peut pas ouvrir un store, héberger des apps, faire la promotion de ces apps, etc. Parce qu'Apple a fait, on l'oublie très vite parce que maintenant ça marche, mais Apple a fait un boulot incroyable pendant des années de prendre un petit développeur du fond de l'Arkansas qui fait une appli gratuite ou qui vaut 99 centimes, qui, avant Apple, ne serait jamais sorti de sa ville. Personne n'en aurait entendu parler, nulle part, et surtout pas en France ou à l'autre bout du monde. Et on a fait la promotion partout. Et ça coûte un pognon fou. Et les gens l'oublient très vite. Alors, ce qui peut se passer, c'est que d'autres grands, à commencer par Google ou Amazon, proposent des stores alternatifs pour des applis iOS. Bon, là, les clients auront le choix, en fonction du catalogue qui sera proposé, de télécharger ces applis ou pas. Je donne un exemple, parce que, très étonnamment, on n'en a pas du tout entendu parler au niveau de l'Europe ou ailleurs. Vous savez que depuis le début, Apple interdit en particulier toute app ou tout contenu pour adulte, entre guillemets, ou contenu X. Parce que Steve, au départ, était totalement contre, etc. Maintenant, est-ce que ce n'est pas une censure arbitraire par rapport à des personnes majeures qui souhaiteraient accéder à ce type de contenu pour une raison ou pour une autre. C'est pas que je les défends, mais c'est une forme de censure. Alors, est-ce que il ne pourrait pas y avoir un store, par exemple, d'appli pour adultes qui viendrait arriver, qui viendrait en parallèle et donc des utilisateurs pourraient télécharger des apps ou du contenu comme ça, ce qui ferait un tout petit peu râler, je pense, les gens d'Apple qui ont réussi pendant des années à bloquer ça. C'est juste pour donner un exemple concret. Après, je pense pas qu'il y aura 100 000 stores parce qu'il faut des moyens pour le faire. Mais les gros n'attendent que ça parce que c'est une façon d'aller un tout petit peu piquer dans la gamelle d'Apple. Moi, ce qui m'embête, c'est que la concurrence est toujours intéressante. Quand c'est une concurrence qui est forcée parce qu'il y a une régulation européenne qui essaye d'imposer des choses, comme ils essayent d'imposer des standards, comme ils essayent, etc. Comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, je trouve que l'Europe va trop loin dans certains domaines à force de vouloir tout réguler. Ils se prennent pour les maîtres du monde, parfois, certains commissaires européens. Ils régulent tout, ils commandent tout. Maintenant, dès que quelqu'un fait quelque chose, même comme c'est une entreprise privée, ah, l'Europe a son mot à dire. Ça fait beaucoup rire les Américains à côté. Mais est-ce qu'à force de tout réguler, on ne va pas tuer l'innovation? Parce que si on avait voulu réguler dès le départ, il n'y aurait peut-être pas eu l'USB-C.
C'est l'un des leitmotifs d'Apple, ça.
Mais moi, j'y crois. Il n'y aurait pas eu Lightning. Il n'y aurait pas eu... c'est que l'innovation, des fois, veut dire qu'on va sortir une technologie, une connectique, une façon de travailler qui est nouvelle et qui sera unique pendant un certain nombre d'années ou de mois et qui sera ensuite copiée ou qui va s'étendre. Donc, à un moment donné, peut-être il y a des acteurs, et pas qu'Apple, qui peuvent se dire « mais ça sert à quoi ?» qu'on investisse des milliards en recherche et développement pour sortir un nouveau standard qui n'est pas un standard européen, attendant que l'Europe sorte un standard et on verra si on l'adopte ou pas. Et du coup, on va innover moins vite. Hein.
Fabrice, comment tu imagines, toi, cet avenir à moyen terme, on va dire, éclaté? Est-ce qu'on ne va pas y perdre en simplicité?
Alors c'est le premier truc, j'allais y venir, effectivement, la multiplication des App Store... c'est pour les vrais gens, c'est une catastrophe, peut-être pas, mais c'est vraiment très compliqué. Dans le monde Android, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que quand si on achète un Android Samsung, on a donc au moins trois façons d'installer des applications. Il y a le Play Store qui est préinstallé de Google, il y a le Galaxy Store, le store d'applications de Samsung, et puis donc le sideloading à condition de déverrouiller le truc. C'est pas si compliqué que ça, mais enfin les vrais gens ça les concerne pas, ils savent même pas que ça existe. Une des questions, c'est aussi de savoir l'arrivée des App Store tiers sur l'iPhone, c'est pas si simple parce que la législation européenne, alors je m'empresse d'ajouter que je suis pas un spécialiste je suis pas un avocat quoi. Mais il me semble que c'est pas si clair que la législation va obliger par exemple Apple de proposer dans son propre App Store des applications qui seraient elles-mêmes des stores pour qu'ensuite on puisse installer des applications depuis, par exemple, donc le magasin d'applications de Samsung qu'on aurait d'abord téléchargé sur l'App Store d'Apple. C'est pas très clair ça sur l'obligation de ça. L'obligation potentielle de pouvoir installer des applications en sideloading, donc en téléchargeant depuis ailleurs. Donc moi, ça fait longtemps que je dis que puisqu'on le fait sur le Mac, je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire sur iPhone. C'est rigolo parce que entre l'iPhone et le Mac, la situation est inversée. C'est-à-dire sur le Mac, on a évidemment commencé par installer depuis des disquettes, ensuite des CD, ensuite depuis Internet en téléchargeant depuis le site du développeur. Et puis il y a eu le Mac App Store qui est pas très qui a pas beaucoup de succès parce qu'il a aussi beaucoup de limitations. Je pense à l'exemple, il y a une application d'édition de texte qui s'appelle BB Edit. Qui existe sur Mac depuis, je sais pas, 30 ans, 35 ans, depuis le début, quoi, et qui a le développeur, c'est une boîte, ils sont 2-3 personnes, enfin, c'est une petite boîte, mais très, dans le monde du Mac, qui est très connu, et qui a même été cité par Apple à un moment pour son arrivée dans le Mac App Store, et donc la petite boîte dont le nom m'échappe là, Barebones Software, c'est pour ça BB Edit, qui a dit ouais, ils ont joué le jeu, on arrive sur le Mac App Store, super. Bon, il y a quelques fonctions qu'on peut pas mettre parce que les applications distribuées par le Mac App Store ne permettent pas d'aller jusqu'au bout dans l'accès au système. Donc c'est pas tout à fait la même version de l'application. Et puis finalement l'application elle est sortie, puis re-rentrée, puis ressortie. En gros, le patron de cette boîte a toujours dit bon, c'est quand même pas aussi simple sur le Mac App Store que d'installer depuis notre site web. Et puis c'est un peu moins souple en termes de façon de vente, d'abonnement, des machins comme ça. Là, avec l'iPhone, on partirait à l'envers. Il y a que l'App Store et on pourrait ouvrir à d'autres choses en installant à côté, avec tous les moyens de sécurisation qu'Apple a déjà mis en place sur le Mac, qui peuvent tout à fait être mis en place sur l'iPhone et probablement, semble-t-il, sont-ils en train d'y travailler pour iOS 17, par exemple. Ou peut-être 18, on verra bien, mais voilà. Donc c'est possible, ce serait moins simple, mais ce que je pense aussi, c'est qu'il y aurait plusieurs étapes, c'est que même si c'est ouvert à l'installation d'applications en sideloading, L'immense majorité des gens d'abord seraient pas au courant et puis ensuite continueraient à aller sur l'App Store parce que c'est plus pratique et que ça marche très bien comme ça.
Eddie ?
Bah, en fait, oui, je voulais compléter ça parce qu'Apple sait déjà faire ça. Ils le font pour les apps professionnelles, les apps d'entreprise. Et en fait, c'est extrêmement simple. Donc, ils s'y préparent. Il suffirait qu'ils enlèvent la limite, puisqu'une app d'entreprise peut être distribuée au départ à 100 personnes lorsque c'est par test flight, puisque ce sont des bêta-testeurs. Et après, je crois qu'on peut monter jusqu'à 1000 personnes. Il suffirait qu'ils enlèvent la limite. Mais là où c'est intelligent, c'est que cette application ne peut être téléchargée ou installée qu'à partir du moment où il y a un certificat qui doit être accepté par l'utilisateur. Donc, l'iPhone le gère très bien en disant « Acceptez-vous l'utilisation d'une application venant de tel éditeur ?» Et si vous dites « Oui », c'est votre responsabilité personnelle qui est engagée, pas du tout celle d'Apple. Tant que vous n'avez pas signé, l'appli ne fonctionne pas. Donc, Apple fait ça très très bien. Donc, il pourrait le faire facilement. Et par rapport à ce que disait Fabrice sur le fait d'installer des applis facilement aujourd'hui à partir d'un site web, par exemple, c'est vrai depuis le début, mais c'est de moins en moins vrai puisque maintenant, dans les derniers systèmes, en particulier Ventura, même si Apple ne l'a pas encore totalement imposé, les applications sont signées. Et donc, pour pouvoir avoir une application signée, qui est donc vérifiée et vérifiable par le système, jusqu'à maintenant, on passe par un processus de signature qui passe par Xcode et qui passe par en fait un développement particulier. Apple pourrait exiger que les applications soient signées, ce qui veut dire donc qu'elles ont subi un minimum de contrôle. Et Apple pourrait dire, ben, on accepte les apps qui viennent de notre App Store ou de notre App Store tiers, à condition qu'elles soient signées, par exemple.
Je voudrais...
C'est juste histoire de mettre une petite barrière, quoi.
Justement, Élie apporte de l'eau à mon moulin. Fabrice parle souvent des vrais gens. Le problème sur un ordinateur est souvent entre l'écran, le clavier et le dossier de la chaise. Et le souci avec le numérique en particulier, c'est que on lit avec moins d'attention, on lit plus vite, on glisse davantage qu'avec une lecture de papier. Et sur un écran de smartphone, on lit encore avec moins d'attention, plus vite et en faisant moins gaffe que sur un écran d'ordinateur. Donc les autorisations de ce type risquent d'être galvaudées. Enfin, c'est là-dessus que jouent les petits malins en essayant d'extorquer des autorisations auxquelles ils n'auraient pas droit habituellement. Enfin, sinon... essayer de vous suivre, etc. Et puis il y a le fait des certificats et de la vérification par Apple qui sera éventuellement pour Cupertino un moyen de récupérer un peu d'argent et même pas mal d'argent en disant ok, vous voulez vendre des applications pour l'iPhone, mais nous on se doit de vérifier que c'est bien c'est bien propre, qu'il n'y a pas de souci, et ça coûte de l'argent, et on ne demande pas cet argent aux développeurs, mais on le demande à l'App Store, à la boutique en ligne, un petit peu le type, on ne va pas appeler ça du black pattern, mais un peu de frein à la réparation à domicile, qui est la location des deux valises énormes pour avoir le droit à la possibilité de réparer son iPhone. Vous avez le droit, très bien, vous voulez l'exercer, pas de problème, mais ça a un coût et ça a des inconvénients, assumez-les.
Élie.
Bah, en fait, il y a quelque chose qui est très important dont on n'a pas parlé, c'est que avant qu'une app soit sur l'App Store, Apple vérifie le code de l'app et en particulier, il cherche... pas tellement à piquer les secrets, quoique ils doivent quand même regarder comment font les uns et les autres, mais ils cherchent quand même à voir qu'il n'y ait pas quelque chose de malveillant, quelque chose qui, comme par exemple sur une appli Android, vous téléchargez un jeu et en fait l'appli dans le code est en train de vous piquer toutes les contacts de votre téléphone ou vos informations personnelles et les envoyer en Chine ou ailleurs. Ça, sur une app, sur l'App Store, on n'en a pas vu parce qu'Apple regarde et contrôle ça.
Oulala, 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 oulala. Ah bah si, alors, c'est bien là où je voulais en venir, dis donc.
Non mais attends,
Lily t'exagère, parce que justement, je m'excuse de te couper, mais là c'est pas possible, parce que sur l'App Store, il y a eu plein d'applications qui ont piqué les données de tout le monde, il y a encore aujourd'hui des applications qui trompent les gens et qui font que t'appuies sur un bouton et hop, t'as un abonnement à 60€ par mois dont t'as du mal à te défaire. Justement, les fourches codines de l'App Store ont montré qu'elles étaient très 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 lâches, et en tout cas trop,
non.
Et que le discours d'Apple sur ce sujet ne tient pas la route parce qu'ils sont plus capables de tout vérifier.
Pourtant,
il y a et puis
ben
les
pourtant,
histoires
Apple
de sécurité.
Et ils ont viré. Non, Apple a viré. Dès que
mais ils en virent plein, mais ils en virent plein, mais pas suffisamment. Ils peuvent pas tout enlever.
C'est le glaive et
c'est
le
pas
bouclier.
Possible.
Mais comparé à Android, c'est 1 million de fois plus fiable qu'Android parce que Android vérifie pas ça. Ils s'en foutent.
Et il y a raison. C'est pas à 100%, mais il y a une course, si tu veux, du petit malin qui va essayer d'aller dans les interstices. On voit ça dans les sciences humaines et on va faire coucou à Sergio, mais ces gamins vont être pareils avec le cadre institutionnel. Il n'y a pas besoin d'aller sur l'App Store de ce côté-là. Il y a toujours un temps d'avance pour celui qui veut tourner les règles et Apple, comme les autres, passe son temps à essayer de colmater les brèches et d'essayer qu'il n'y ait pas trop de fuites. Point, c'est humain.
Ouais, et puis je trouve que c'est un peu exagéré. J'ai pas vu des centaines d'apps qui piquent des données parce que d'abord, malgré tout, il y a un truc qui s'appelle le sandboxing. Donc une app, par exemple un jeu, qui irait lire le fichier de contact de l'iPhone sans que vous l'ayez autorisé, autorisez-vous telle application à accéder à vos contacts? La question est posée. Sans ça, on ne peut pas le faire. Hein. Le sandboxing est là pour ça. Donc, je trouve que c'est un peu exagéré. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas un génie qui ait réussi. On a bien vu qu'il y a des gens qui ont réussi à pirater l'iPhone, hein. Bon, même si ça coûte des millions de dollars.
Hein. Oui.
On en a parlé suffisamment. Mais accéder à l'intégralité du téléphone à partir d'une app comme ça, non, j'ai pas d'exemple, donc honnêtement j'ai pas d'exemple.
Bon, en tout cas je vois que le sujet vous fait causer et vous passionne. On va suivre, ça va être une des grandes évolutions potentielles, hein, de cette année 2023, l'ouverture d'Apple à d'autres magasins d'applications pour l'iPhone. Ça peut être potentiellement une vraie révolution dans notre vie quotidienne. On marque une pause et on se retrouve dans un instant, mais on va un petit peu rester sur ces sujets-là avec la mise au point de Gilles Donès. La mise au point de notre Gilou national. Et Gilles, quelque chose me dit que tu vas te faire plaisir aujourd'hui avec la décision de la FTC aux États-Unis et les deux amendes records infligées à Epic Games.
Oui, Benjamin, mais c'est la FTC, parce que tu appelles le double effet qui se coule avec ton air polisson.
Pas du
tout. Même si c'est comme ça, effectivement, que Tim Sweeney a dû le ressentir. Il s'agit plutôt du retour de la régulation, dans le sens, d'une manière générale, puisque de l'autre côté de l'Atlantique, Apple, qui s'est fait taper sur les doigts pour d'autres raisons, comme on a vu. Puisque de l'autre côté de l'Atlantique, Apple s'est fait taper sur les doigts pour d'autres raisons, comme on a vu en France et dans les pays européens.
Ouais. Oui, en ce qui concerne Apple, Gilles, il s'agit d'une procédure qui a été engagée très en amont en 2015 par le ministre de l'économie.
Oui, effectivement, qui aurait cru que Bruno Le Maire avait le glaive vengeur et le bras séculier, du moins à ce point. Le ministère a investigué entre 2015 et 2017, avec une plainte qui a été déposée au final auprès du tribunal de commerce de Paris en 2018, et qui portait à la fois sur le prix imposé aux développeurs, sur l'App Store, la non-communication des données personnelles et la possibilité qu'Apple s'arroge le droit de modifier unilatéralement les termes du contrat. Ça doit rappeler quelque chose à Ellie.
Et en quoi c'est intéressant, oui. Gilles?
Alors, le tribunal de commerce n'a décidé que d'une amende, pas de l'obligation pour Apple de changer les règles de l'App Store, en particulier au niveau des partages des données personnelles, parce que la loi sur les marchés numériques qui va entrer en application dans l'Union européenne nécessiterait des changements dans tous les cas. Donc, puisque la législation européenne aura force de loi sur le territoire français, il n'y avait pas besoin de surlégiférer.
Et dans le cas de Epic Games, Gilles ?
Alors, dans le cas d'Epic Games, il s'agit d'un arrangement avec l'autorité de régulation américaine pour éviter un procès. Et donc, Epic Games jette l'éponge, y admet au moins implicitement les griefs de la FTC, tandis qu'Apple a toujours, techniquement, la possibilité de faire appel. Il en fait deux accords. Le premier qui se solde par un remboursement de 245 millions de dollars, une sorte de paquet qu'il va falloir se partager, et qui porte sur les pratiques de Dark Pattern par Epic Games pour induire des achats non désirés et rendre extrêmement compliqué le remboursement et même l'annulation des comptes des clients qui contestaient. C'est un peu ce qu'on craint pour le side loading sur l'App Store. Mais il y a mieux.
Parce que tu trouves que ça ne suffit pas ?
Oui, la plus grosse amende, un nouveau record avec 270 millions de dollars, c'est pour avoir collecté les données personnelles de gamins de moins de 13 ans sans le consentement des parents et avoir laissé ouverts les dispositifs de chat de ces mêmes gamins en les laissant à la merci de tout un tas de cinglés qui se sont livrés à des actes d'agression et même des incitations au suicide. C'est ça qui me paraît intéressant dans les deux cas. L'autorité judiciaire ou l'autorité de régulation a pris en compte, au moins provisoirement, la dimension de la protection des données personnelles. Fabrice s'était interrogé sur le modèle économique d'Epic Games. C'est non seulement la rente, en exploitant à l'infini la même bonne idée, en rajoutant à l'infini également des accessoires, un peu comme dans Mythic Quest, la série sur l'Apple TV. Mais surtout, c'est l'exploitation des données personnelles. Alors, il y aurait une possibilité hein, pour éviter les abus de position dominante, c'est d'augmenter le taux d'imposition de ces grosses boîtes. On est à 15%, mais en minimum, mais 15%, c'est ce que paie Apple depuis des années, depuis que Trump a baissé le taux d'imposition qui était à 35%. Si on le monte à 40, 50 ou 60%, il n'y a plus ces gros paquets de trésorerie qui permettent de terroriser les petits développeurs ou d'acheter la concurrence ou de permettre de tenir jusqu'à vitam aeternam. Mais ça, dans l'état actuel des choses et du logiciel, on va dire, des autorités comme la Commission européenne ou les différentes alternatives démocrates ou républicains, ça n'est pas encore possible.
Merci Gilles pour cette mise au point. Une réaction, les amis ?
La réaction, c'est que quand de toute façon on s'attaque aux joueurs mineurs, aux mineurs dans tous les cas, c'est insupportable, donc il faut absolument faire quelque chose. Ça me rend triste parce que j'avais participé quelques fois ici dans ma petite ville avec la gendarmerie à faire des interventions dans les écoles élémentaires notamment auprès des enfants pour parler des dangers sur Internet. Et ça se transformait souvent non pas en causerie pour les enfants mais en causerie pour les parents qui comprenaient pas tout et qui avaient un peu peur de tout ça, et il fallait aussi un peu leur donner des moyens pour qu'ils puissent parler de ça à leurs enfants et leur expliquer ce qui des fois pouvait se passer en ligne. Et ça continue, donc c'est vraiment très triste. Et puis les pratiques financières d'Epic Games, ils sont donc malheureusement pas tout seuls. C'est forcer les gens, en tout cas utiliser des pratiques qui sont visiblement, comment dirais-je, punissables pour que les gens dépensent des trucs en plus et en plus éviter qu'ils puissent les rembourser. On a évoqué ça dans la quotidienne. Semble-t-il, Epic Games n'était pas très bon pour rembourser ce qu'on leur demandait, au contraire d'Apple en général, qui répond toujours présent quand on leur demande. Voilà, moi je suis. Voilà, c'est la patte du gain que ça a l'air de démontrer me laisse pantois.
Ellie ?
Bah, moi j'ai lu ces jours-ci l'analyse de ce jugement qui a été fait par un avocat qui est spécialisé dans le droit des affaires en France. Hein. Et qui dit que, en fait, les arguments de Bruno Le Maire, si Apple fait appel, et je pense qu'ils ont suffisamment d'avocats intelligents, ne tiennent pas parce qu'en fait, Apple, contrairement à ce qu'il dit, n'impose absolument pas de prix sur l'App Store, puisqu'il y a des paliers. Il y en a déjà quelques-uns. Et il y en a d'ailleurs d'autant plus, puisqu'ils viennent de multiplier le nombre de paliers. Donc, en fait, le développeur choisit à quel prix il va vendre son appli. Il peut choisir 99 centimes comme il peut choisir 99 euros ou 999.
Ça vient de changer il y a quelques heures.
Hein. Oui, oui, mais c'est, Apple n'oblige pas un
c'était
prix.
C'était pas le cas
hein,
avant,
donc,
il y en avait beaucoup moins avant.
Il y avait moins de paliers, mais le développeur pouvait choisir, absolument. Donc, ce qu'il dit est faux. Mais par contre, qu'Apple prenne 30%, sur ce prix-là, ça c'est un fait, mais en tout cas, non, il n'y a pas une imposition sur les prix. Et donc, cet argument est faux. C'est ce que disent bon. Les avocats, c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, j'ai lu ce que disent les avocats. Hein, donc,
Allez, un dernier petit tour par Fabrice.
Mes remarques, c'était pour Epic Games. Pour ce qui est d'Apple, ce qui est reproché à Apple, c'est pas tellement donc le prix. Effectivement, les 30%, c'est donc pas si cher que ça. C'est le fait que puisqu'il n'y a pas d'alternative, le développeur est à la merci d'Apple qui accepte ou pas. Et de temps en temps, de manière assez obscure et opaque, la nouvelle application ou la mise à jour de l'application. C'est de ça dont on parlait. C'est pour ça que c'est en lien avec le sujet dont on a parlé précédemment, avec l'ouverture potentielle de justement de la possibilité d'installer une application sans passer par l'App Store. À ce moment-là, dans ces cas-là, la puissance d'Apple diminue et ça remet un petit peu d'équilibre. Et c'est tout l'esprit de ce que j'ai compris, moi, de ce jugement.
Il n'y a pas besoin de passer par du sideloading, il suffit d'encadrer les pratiques contractuelles. Tant qu'à faire, on peut, je faisais allusion au contrat qui lie Apple et les APR, Ellie n'a pas le droit d'en parler, mais je ne vois pas pourquoi il ne bénéficierait pas non plus des choses qui encadrent les relations de la grande distribution avec leurs fournisseurs. C'est un vaste sujet qui dépasse l'émission d'aujourd'hui, mais il y a d'autres voies ouvertes pour le sideloading pour réussir à desserrer ce carcan qui est indéniable.
Merci à tous les trois. On se retrouve dans une poignée de secondes pour le tuto audio. Aujourd'hui, la réinitialisation du Mac avec macOS 13. Le tuto audio, aujourd'hui, c'est toi qui t'y colle, Fabrice. Tu vas nous raconter comment la réinitialisation d'un Mac a changé depuis macOS 13. Dis-nous tout.
Alors oui, je vais faire ça et j'aurais bien voulu pouvoir m'écouter il y a 2 semaines quand j'ai réinstallé mon Mac parce que j'avais oublié. Et donc moi, j'avais utilisé l'ancienne façon de faire et je me suis rappelé après que justement on peut le faire différemment dans macOS 13. Donc l'idée c'est que c'est ce qui m'est arrivé, on a parfois envie donc voire besoin de réinstaller son Mac pour le retrouver véloce comme au premier jour. Des fois aussi on a envie de l'effacer complètement pour le revendre ou le donner. Et depuis macOS 13, l'opération a été largement simplifiée en copiant presque à l'identique celle qu'on utilise avec les iPhones et les iPads. On n'a plus besoin de redémarrer son Mac en appuyant sur les touches commandes plus R pour passer en mode de récupération, ce que sûrement vous tous avez fait là ici et beaucoup de nos auditeurs aussi. Maintenant, on passe directement par les réglages système qui ont remplacé, on le rappelle, les préférences système de macOS 13 Ventura. Et dans la fenêtre qui s'affiche, on clique sur Général, puis dans la zone à droite, on clique sur Transférer ou Réinitialiser, tout en bas de la liste. On a alors deux boutons qui s'affichent. Le premier, c'est ouvrir l'assistant migration. Alors ça, c'est l'assistant migration qui existe depuis peut-être les débuts du Mac ou presque, qui permettent de récupérer les données et réglages d'un autre Mac via une sauvegarde Time Machine ou par un disque externe, ou de transférer toutes les données et réglages directement depuis un autre Mac par Wi-Fi ou par un câble, c'est mieux. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de tout effacer. Alors dans ces cas-là, on clique sur le deuxième bouton qui s'appelle donc effacer contenu et réglages. Il y a une fenêtre d'alerte qui s'appelle assistant d'effacement, ça c'est nouveau dans macOS 13, qui demande de taper le mot de passe de sa session avant de pouvoir commencer l'opération. On le tape au clavier, on clique sur le bouton déverrouiller, et là une autre fenêtre s'ouvre qui propose de réaliser une dernière sauvegarde sur Time Machine en indiquant la date de la dernière fois qu'une telle sauvegarde est allée jusqu'au bout, c'est important. Si on veut faire la sauvegarde, on clique sur les trois mots « ouvrir Time Machine » qui sont écrits en bleu au milieu de l'écran et on attend que la sauvegarde se termine. Sinon, si l'intention est juste de tout effacer, on clique sur le bouton « continuer » toujours en bas à droite. Une nouvelle fenêtre s'affiche qui s'appelle « effacer contenu et réglages » qui indique, qui fait la liste de tout ce qui va être effacé sur le Mac, les réglages, le contenu multimédia, les données, ainsi que tous les comptes locaux, donc toutes les autres sessions qui existeraient sur la machine. Quand on est d'accord avec ça, on continue, on clique sur continuer en bas à droite comme d'habitude. Et là, c'est la dernière étape, c'est la fenêtre de déconnexion qui s'affiche. On entre le mot de passe du compte Apple iCloud pour désactiver la fonction localiser votre Mac. C'est exactement ce qu'on fait déjà sur l'iPhone et l'iPad depuis longtemps. Et ça va aussi retirer de la liste des appareils connectés à son compte Apple le Mac en question. On confirme deux fois et la procédure d'effacement commence. Voilà, et donc une fois que c'est fini, le Mac redémarre comme un iPhone, un iPad pour retrouver, on va se retrouver devant l'écran de premier démarrage comme si on venait de l'acheter ou le sortir de son carton. Et maintenant, il ne reste plus qu'à choisir de repartir de zéro et de réinstaller toutes ses applications une à une, de repartir d'une sauvegarde Time Machine ou donc de le remettre dans son carton parce qu'on va le vendre ou le donner. Ça, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Et j'aurais bien voulu savoir tout ça avant de refaire l'installation de mon Mac.
Ben oui, et merci Fabrice, parce que moi je ne savais pas que le Mac s'était ainsi rapproché de l'iPhone. Un vrai exemple de convergence. Eli ?
Absolument.
Ah, une petite précision, en fait c'était possible de le faire sur macOS 12, pas depuis la première version, mais dans une version. Alors il n'y avait pas tout l'assistant dont vient de parler Fabrice et qui... en fait, simplifie et rationalise le processus, mais en fait, c'était un peu plus compliqué. Il fallait ouvrir les préférences système, et à ce niveau-là, il y avait un menu qui apparaissait dans la barre de menu, mais vous ne pouviez pas le savoir, qui disait « effacer le contenu et les réglages ». Et donc, on avait eu cette procédure en SAV, et effectivement, on s'était rendu compte que ça nous faisait gagner un temps fou, par exemple, sur toutes nos machines de démo. Quand on les sortait du magasin, il fallait les reformater. Enfin, c'était la croix et la bannière. Tandis que là, on faisait ce réglage, effacer contenu et réglage, bing, tout disparaissait sauf l'OS. Et donc, on gagnait à peu près deux heures par machine. Donc, mais il n'y avait pas cette sécurité, faites une sauvegarde, etc., etc. Mmh. Et c'était pas évident de le savoir parce qu'en fait, c'était dedans. Et on l'a su un jour parce qu'Apple nous a dit que c'était dedans. Ils nous ont dit, mais faites ça. Je dis, mais non, il n'y a pas ça dans le menu. Est-ce que vous avez ouvert les réglages système? Non, ouvrez-les. Regardez dans votre menu pomme. Ah oui, il y a une ligne supplémentaire. Donc, tu vois, c'était dit sans le dire, mais c'était possible déjà de façon presque confidentielle dans une des versions, pas la première certainement. Je pourrais demander au technicien depuis laquelle, mais je sais qu'un jour, on a appris ça comme ça. Bon, voilà. Mais pour le reste, maintenant, au moins c'est cadré. Au moins, on ne risque pas de tout effacer sans avoir pensé à faire la sauvegarde, etc. Donc, c'est mieux.
Merci, Eli, pour cette précision. Et merci, Fabrice, pour ce tuto audio. Dans 3 secondes, nos coups de cœur et nos cartons, peut-être, de la semaine. Nos coups de cœur et nos cartons jaune-rouge de la semaine. On va commencer par toi, Gilles. Tu es allé au cinéma.
Oui, on est allé voir Avatar. Donc, La Voix de l'eau. La Voix de l'eau. Et c'est très... comment dire, une belle métaphore de la prédation qui est en train de se produire sur, sur l'écosystème général et tout ce que peuvent vivre des gens qui essaient de s'y opposer dans tel ou tel pays. Il y a quelque chose qui est féerique dans la façon, peut-être idyllique, hein, dans la façon de présenter les choses, mais c'est des images d'un réalisme et d'une beauté étonnante. Je ne sais pas si on est déjà été aussi loin dans le réalisme, dans des films d'animation. C'est extrêmement touchant. Il y a un truc qui remue beaucoup, beaucoup. Je ne vous dis rien sur l'histoire. Donc je ne sais même pas s'il y a un assassin.
Donc le 2 est mieux que le 1.
Je ne sais même pas s'il y a un assassin à la fin.
Le 2 est mieux que le 1, c'est ça que tu nous dis.
Oui, il y a un truc supplémentaire, je crois.
D'accord. Bon, bah écoute, moi j'avais pris des places pour le soir de la demi-finale, donc j'avoue que j'ai préféré voir le match plutôt qu'aller voir Avatar. Mais je vais y aller, évidemment. Ellie ?
Oui, le film est absolument incroyable, hein, donc on ne spoil pas. Moi, je l'ai vu, effectivement, à la sortie. Film fait quand même 3h15. Hein, 3h15, donc il ne faut pas partir à une séance à 9h30, sinon tu sors à 1h15 du matin. Hein, donc, c'est ce qui m'était arrivé. Moi, je n'avais pas regardé la durée du film et je me suis retrouvé dans les rues. J'ai dit, mais à quelle heure suis-je ? Mais en fait, ça passe très vite. Et ce qui est étonnant, c'est effectivement, ils ont beaucoup amélioré les effets en 3D, si vous le voyez en 3D. Il a été tourné pour la première fois au cinéma avec quelque chose qui s'appelle du HFR, High Frequency Rate, c'est-à-dire que le film a été tourné à 48 images par seconde au lieu de 24. Et il y a des salles, à Paris, il doit y en avoir plusieurs, à Nice, il n'y en a qu'une, où tu peux le voir en HFR. Et c'est apparemment étonnant. Moi, je l'ai vu en 3D dans la salle Dolby. Je ne savais pas qu'il y avait une salle HFR, donc je vais être obligé de le revoir. Mais ça sera avec grand plaisir parce que les images sont incroyables. C'est poétique, c'est beau. Il y a beaucoup d'action, bien entendu. Mais tu es dedans, tu passes 3 heures, c'est fabuleux. C'est une expérience.
Ouais. Alors, tant que je te tiens, Ellie, est-ce que tu as un coup de cœur, toi ?
Yes, et d'ailleurs, c'est pour toi. C'est un coup de cœur pour toi. Parce que je t'explique, est-ce que tu connais CapCut ?
CapCut ?
Yes.
Pas du tout.
Alors figure-toi, si tu vas, et tu peux le faire, hein, sur le site qui s'appelle capcut.com, donc K-C-A-P-C-U-T, capcut.com.
J'y vais en même temps, ouais.
Tu vas voir, c'est en fait une application qui est gratuite, qui utilise en fait l'intelligence artificielle. C'est un des rejetons des recherches d'OpenAI dont on a parlé tout à l'heure et dont on parlera. Et en fait, c'est un éditeur vidéo avec de l'intelligence artificielle. Et dans l'exemple qu'on trouve, qui est gratuit, hein, on peut le faire sur le web, on peut le télécharger sur Mac. Tu prends une séquence, par exemple, une séquence avec un de tes chroniqueurs, avec un fond un peu bizarre comme le mien, par exemple, hein, parce que j'ai fait l'essai.
On peut dire que ton fond, c'est un fond de d'arrière-salle de magasin. Voilà.
Ouais, bon. Et donc, il y a un effet qui s'appelle détourage. Tu cliques dessus et sur l'ensemble du film, il détourne le personnage automatiquement en vidéo et après, tu le prends et tu mets le fond vert que tu veux sans fond vert. C'est juste magique. Il fait aussi des effets sur les voix. Il fait d'autres effets spéciaux. Mais moi, j'ai retenu celui-là parce que je me suis dit, mais avec ça, tu vas faire des montages de dingue. Et en plus, ils utilisent, figure-toi, l'effet spécial d'ICAM parce qu'en fait, on voit ce mur dont nous avons l'habitude lorsqu'on passe en écran vert sans l'avoir. Et ils te montrent comment tu remets un fond par rapport au personnage détouré. Fais un petit essai, tu nous diras comment ça marche. Moi, j'ai trouvé en plus pour un logiciel gratuit que c'est étonnant.
Ah bah écoute, je vais me précipiter dessus et ça illustre bien ce qu'on disait parce qu'il y a un lien download for Mac, donc là, c'est du sideloading comme on en a l'habitude depuis toujours sur Mac, hein, très clairement.
Absolument. Et tu verras, il y a des effets, il y a plein de choses. Il y a en plus des tutos sur YouTube. C'est assez génial.
Super, bah merci pour ce coup de cœur et merci de me l'avoir adressé. Je vais me précipiter dessus dès qu'on aura fini. Fabrice, ton coup de cœur à toi ?
Mon coup de cœur, c'est alors en partie en rapport avec ce dont on va parler dans le bonus, sans trop dévoiler, mais pour ceux qui souhaitent se mettre à la, comment dit-on déjà, HomeKit, à la maison connectée, tout ça. Donc, si on a des appareils HomeKit, on se rappelle, hein, pour les installer, on scanne un petit QR code et puis ça donne un numéro et c'est comme ça qu'on ajoute un accessoire à sa maison connectée. Et mon coup de cœur, c'est une petite application qui s'appelle HomePass pour HomeKit. Alors, je donne aussi le nom de l'éditeur, Pearce Media, P-E-A-R-C-E, Media, parce qu'il y a plusieurs applications qui s'appellent HomePass dans l'App Store. Et c'est une application qui coûte 3 euros, si je me souviens bien, qui permet de se faire un catalogue de tous ces accessoires HomeKit de manière automatique, et notamment pour retenir les codes qui sont liés au petit QR code qu'il y a sur chacun des appareils. Parce que je trouve que c'est un des points faibles de HomeKit et donc maintenant Apple Home. Il faut que je corrige, sinon je vais me faire taper sur les doigts par François. C'est que si on perd ce petit code, c'est pas toujours facile de réinstaller l'accessoire, voire je suis même pas sûr que ce soit possible. Donc voilà, cette petite application, on l'installe, elle va scanner son réseau domotique et ensuite pour archiver et créer une base de données de tous les appareils et donc de leur code pour pouvoir les réinstaller si besoin plus tard, même si on n'a pas la petite étiquette QR code qui est normalement collée sur l'accessoire. Je trouve ça pratique, j'aime bien ça. Faut penser à la lancer de temps en temps et à ajouter les accessoires. Et ça me sécurise, moi, d'avoir cette petite base de données de mes prises connectées, notamment.
Je comprends. Ouais.
HomePass pour HomeKit de Pearce Media.
3 euros. Ouais,
très pratique.
Merci. Ouais. Bonne
non,
idée.
Non, attention, elles viennent d'augmenter. L'inflation, 3,49 à l'instant.
Oh my God.
Je viens de regarder.
Ah.
3,49.
Bon. Ça vaut le coup quand même.
Ça vaut le coup quand même. Et ben moi je termine par mon petit coup de cœur à moi. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais une partie du making of du prochain Mission Impossible 7. Tom Cruise lui-même a posté la vidéo des répétitions de cette cascade qualifiée de plus grosse cascade de l'histoire du cinéma. Alors elle a nécessité la construction d'une gigantesque rampe faite de tubulures à Hellesylt en Norvège, au bord d'une falaise. Un an de répétition, 500 sauts en chute libre pour Tom Cruise, 13 000 bonds à moto, en motocross, bardés de capteurs pour tout mesurer, tout anticiper. Puisque Tom Cruise, dans le film, parcourt cette rampe à moto, il chute dans le vide avec la moto qui tombe en dessous de lui. Il chute, donc vraiment, il tombe en chute libre le long de la paroi. C'est pas de l'écran vert, hein, c'est une vraie cascade. Avant d'ouvrir son parachute après de très longues secondes de suspense. Alors les répétitions grandeur nature ont d'abord eu lieu en Angleterre, ils ont reconstruit l'équivalent du site avec des filins de sécurité et des sortes de poufs gonflables pour recueillir la moto au moment de la chute. Voilà, je pense que la scène dure 10 secondes, mais ce sera l'un des moments forts de ce Mission Impossible 7 qui sera en deux parties. Première partie donc avec cette cascade qui sort le 12 juillet prochain, donc 2023. Et la deuxième partie, ce sera pour le 26 juin 2024. Moi, j'ai toujours été assez fan des Missions Impossibles, de cette ambiance un petit peu étouffante de l'homme toujours trahi par le système qui se retrouve finalement seul... Sans aucun plan B, parce que n'est là pour l'aider. Ethan Hawke.
Tu veux qu'on en parle, Benjamin ?
Oui, absolument, absolument. On en parlera après, toi et moi. On fera une petite séance, toi et moi.
Allongez-vous.
Alors, ce que dit pas la vidéo de Tom Cruise, là, c'est que pendant les répétitions, la moto atterrissait sur des cartons, mais il a fait sinon 5 fois la
en
cascade.
Oui, il l'a fait 5 fois.
Et donc, ils ont pété 5 motos.
Ah, bah oui, ça,
ça,
oui.
Parce que là, il n'y a pas de parachute sur la moto.
Quand tu sais qu'ils ont monté chaque tube de la structure en hélico, si tu veux. Je pense que les.
C'est pas le prix des motos, ouais.
C'est ça.
Le bilan carbone.
C'est pas du tout.
Le bilan carbone n'est pas bon non plus.
Trois fois rien. Bon.
Oui.
Mais elle est géniale.
Pendant qu'on va au cinéma, on prend pas l'avion. Donc finalement, on récupère de ce côté-là. Tu veux. Ou alors, on peut aussi te voir en avion, ce qui est aussi une autre possibilité. Ce 117e numéro d'iWeek, la semaine Apple, vous le retrouvez également en vidéo, en avant-première, dès maintenant et sans pub sur patreon.com/iWeek, tout comme notre bonus hebdo exclusif en audio et en vidéo, consacré cette semaine à nos bonnes idées de cadeaux de dernière minute. Ça tombe bien, il fallait le faire cette semaine absolument. Si vous n'êtes pas contributeur et que l'épisode vidéo vous intéresse, alors un peu de patience, il sera sur YouTube gratuitement à partir de dimanche et donc du jour de Noël. Salut les amis.
Salut, salut mon capitaine.
Salut Fabrice, salut Ellie.
Bonsoir, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine et salut Gilles.
Au revoir Benjamin.
Au revoir Gilles. À la semaine prochaine.
À vendredi pour ce qui nous concerne.
Oui, c'est vrai. Pour la quotidienne, pensez pour l'absent du jour, François Le Tourédic, qu'on embrasse. Et nous, on se dit à mercredi prochain. On sera le 28 décembre 2022. Ce sera l'épisode 118. Avec notre grande rétrospective 2022, on va revenir sur une année incroyable marquée par l'invasion de l'Ukraine et toutes ses conséquences. On vous fera revivre chacune des keynotes, tous les grands lancements et on retrouvera les invités qui nous ont le plus marqué. Et on vous donne déjà rendez-vous la semaine suivante, le 4 janvier, pour anticiper le calendrier et toutes les annonces de 2023. D'ici là, on vous conseille donc la quotidienne iWeek avec Gilles, donc vendredi. La quotidienne, c'est le podcast court compagnon de la semaine Apple, du lundi au vendredi, 5 à 10 minutes, avec les 5 infos essentielles des dernières 24 heures. Abonnez-vous, suivez la quotidienne iWeek sur votre plateforme de podcast préférée. Un clic sur suivre ou s'abonner et vous ne manquerez plus aucun épisode. Et en plus, c'est gratuit. Patreon.com/iWeek pour rejoindre la communauté iWeek et nous soutenir. Sur Patreon, les évolutions annoncées approchent très concrètement. Et on vous donne rendez-vous mi-janvier au plus tard pour tout savoir. On pense que vous allez plutôt apprécier. Twitter @iWeekNews et Instagram @iWeek.news. Prenez bien soin de vous, toutes et tous. Parlez d'iWeek autour de vous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs et on compte sur vous. Bonne soirée. Très belle semaine à tous. Joyeux Noël et à mercredi prochain. Bye bye.
Bonne fête à tous. Bye bye.
Bye. Bye. Bye.